Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose la suite de la lumineuse biographie romancée du peintre Pierre Bonnard, intitulée « Elle, par bonheur, est toujours nue », racontée avec l'œil d'un poétique regardeur, Guy Goffet. L'air qui te manquait, Marthe, et la terre, les fleurs des champs, les arbres, les oiseaux, les voici, je te les donne. Pour une surprise, c'en est une. En entrant au grand lan, entre la voile bleue qui tire les collines et la marée verte où la plaine s'allonge, Marthe ne sait plus bien qui regarde par les trous de ses pupilles. Il y a une petite fille en sabots qui danse depuis un moment derrière son front et qui lui fait battre la chamade. Elle la croyait tout à fait morte depuis qu'elle est Marthe et que Pierre l'aime et voudrait bien l'empêcher de courir ainsi en chantonnant sa rengaine « Oh, la menteuse, elle est amoureuse !» Elle voudrait bien regarder Pierre qui conduit en souriant, lui répéter son amour et lui avouer son mensonge. Mais elle a peur de perdre cet homme qui l'a sauvée. Fébrile, elle lui touche la main pour qu'il ne s'inquiète pas. Lui la regarde sans comprendre, inquiet, soudain. Heureusement, voilà le clos, la grosse maison de famille du Dauphiné, où Pierre, depuis toujours, revient l'été prendre les couleurs et le pouls des siens. Ils sont tous là, comme dans l'après-midi bourgeoise qu'il peindra en 1900. Grand-mère Metzdorf s'est mise en frais pour l'occasion, robe bleue à ramages blancs et chapeau de plumes, elle veille au grain, rayonnante au milieu de sa nichée. Les enfants sont partout, et c'est des pleurs dans les plastrons, des cris à n'en plus finir aux abords des bassins, des rires et de la musique par toutes les fenêtres, tandis que les poules caquettent entre les massifs de fleurs, que les chats ronronnent et les chiens sautent aux pieds. Eugène, un chapeau de paille, fume la pipe sur une chaise de rotin. Il y a peut-être Charles aussi, le frère aîné, et André, la cadette, et Claude Terrasse, son mari, ce professeur de musique dont Pierre goûte tellement la compagnie qu'il en viendrait à aimer le solfège. Illustrer la méthode que Claude vient d'inventer pour les enfants lui suffira. Il y a les servantes aussi qu'on voit passer en courant et le jardinier qui s'éponge le front dans l'allée. Il y a les hauts arbres qui chantent, les fleurs qui rient, les rosiers, les fuchsias, le lierre sur la façade et les fruits qui roulent et qu'on peut croquer. Il y a ceux-là qu'on croit éternels qui meurent dès qu'on a le dos tourné, le paradis d'enfance. Les chiens dressent la tête, se lèvent, aboient, les chats disparaissent, la scène se vide comme par enchantement dès que la voiture de Pierre s'arrête, que les portières ont claqué. C'est le retour de l'enfant prodige, il n'y en a que pour lui. Marthe reste en retrait. Elle y restera. Pierre pourtant l'a présentée comme la femme de sa vie, avec un bonheur dans les yeux qui ferait couler le marbre. Rien n'y fera, elle n'est pas de leur monde, et Marthe le sait. L'accueil est froid, bien que courtois. Pierre en est mari. Ils écourteront leur séjour, résolus à chercher ailleurs un jardin pour eux deux, où ils pourront rejouer Adam et Ève en toute tranquillité et se prendre en photo dans le plus simple appareil. Tant pis pour l'atelier dans la chambre du haut que sa mère lui avait installé, tant pis pour la tablée caquetante, la veillée sous la lampe et l'enfance qui reste avec les poissons rouges et les reflets dans le bassin parmi les arbres. Un jour il faut partir et l'on ne sait plus rien de ce que fut l'arc-en-ciel de nos larmes. Plus loin, ils chercheront les arbres, les fleurs, l'eau. À Montval, à Médan et Vilaine d'abord. À L'Étang-la-Ville, puis à Vernouillet, près de Paris. Trop près sans doute pour se sentir à la campagne comme chez soi. Enfin, en 1912, il déniche et achète en Normandie, à Vernonnet, près de Vernon, une petite villa à flanc de coteau, avec un jardin à l'arrière, et devant, en contrebas, un bras de la Seine ou canoté. C'est Maroulotte. Ils y viendront, entre 10 voyages, passer les beaux jours, tout en conservant leur appartement parisien et l'atelier de la rue de Douai, car pour Pierre, le paradis normand ne commence qu'à partir de juillet. Peuplé de voix et de couleurs, le jardin d'enfance persiste en nous, royal malgré la chute et l'exil du roi. Il rafraîchit les déserts traversés de l'âge, rattrape l'aveugle dans la musique, le sourd dans la contemplation. Toujours ce qui manque à nos vies, cet innombrable vide tout à coup derrière la nuque qui nous remplit de regrets, de remords, de nostalgie, toujours à la forme d'un jardin. Il y a des arbres, de l'herbe, des parterres de fleurs, et peut-être un coin d'ombre où nous ne sommes jamais allés, qui nous faisait peur parce qu'il nous attirait avec trop de violence. C'est là sans doute que le secret de notre destin fut scellé, et nul ne peut le connaître sans mourir aussitôt. Pierre ne cessera, depuis le clos du Grand Lan jusqu'à la maison rose du Canet, de rechercher cette enfance enfouie parmi les noisetiers et les mimosas. Et partout où qu'il aille, il ouvrira ses fenêtres sur un jardin ou, comme à Deauville, sur ce que tous les jardins annoncent en le cachant, la mer. Tous les jardins vont à la mer. Il suffit de leur lâcher la bride et hop, ni une ni deux, comme les galopins qu'ils n'ont cessé d'être sous leurs airs sages, ils sautent la clôture, les hauts murs du temps, prestes malgré les pommes et les prunes qui leur gonflent les poches. Tous les jardins, tous, vous dis-je, à condition de les laisser faire, d'arrêter de les fixer avec l'air d'une tondeuse à gazon, un rictus de sécateur, ou le sourcil froncé de l'architecte planté dans la verdure comme un compas sur une carte de géographie. Demandez à Pierre qui fit là ses premiers pas, roulant la bille de ses yeux sur la vague verte des jardins qui croulent dans la lumière. Demandez-lui comment les jardins vont à la mer. Il a passé dans celui de Fontenay aux Roses les 8 premières et plus longues années d'une vie d'homme, celle qui ne voit pas le temps passer, car c'est du temps qui ne passe pas, mais qui engrange, et pour des siècles, le bon grain et l'ivraie ensemble, du temps qui thésaurise l'or invisible des jours. Parce que l'enfant ne sait pas qu'il est un enfant seulement, ou alors de loin, par à-coup, par oui-dire, et si mal que ça le révolte toujours cet aveuglement des adultes. Parce qu'il est l'oiseau qu'il regarde et qui l'emporte par-dessus les lacs et les montagnes, qu'il marche dans les gouttières avec le chat, et tremble avec la plus haute feuille de l'arbre contre lequel il endort la forêt. C'est ainsi que Pierre, à 8 ans, connut l'Amérique avant Colomb, en suivant, avec la boîte d'arc-en-ciel que sa grand-mère lui avait offerte, le chemin sur le papier qui mène du jardin à la mer. On ne s'en remet pas. La couleur est une femme qui se gagne lentement, regard après regard, caresse après caresse, on sait tout de suite que ce sera long, un combat sans cesse recommencé avec la lumière, et qu'il faudra souvent faire mine de baisser les bras, de quitter le champ et de se retirer dans l'ombre, le silence, la solitude. Car il s'agit maintenant de donner des voyelles aux couleurs et que la lumière chante sur une partition sans fausse note pour l'œil qui écoute et se tait. Que la chair, enfin, se mette à parler du bonheur d'être vive et que nous frémissions de l'entendre rire comme si jetés dans ses bras nous étions couverts en un instant de notre feuillage unique et de toutes ses couleurs. D'emblée, Marthe accepte de ne jamais poser pour Pierre mais de vivre à ses côtés, simplement, amoureusement. À ceux très rares qui poseront pour lui, Bonnard demandera juste de garder le silence, d'être naturel et de l'oublier, de n'écouter que leur instinct. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de maître, hormis la lumière. Pierre n'est pas un chasseur sur cible de carton au tir à pipe. Il veut le mouvement avant tout, la vie au pied levé, comme lorsqu'il était enfant, les poissons rouges dans le bassin, le chat hérissé sur ses pattes, le cheval au galop, les poules picorant le gazon et les nuages et les feuilles dans le vent, les robes des servantes du grand lent, la petite fumée qui monte de la pipe de son père dans la douceur et vers la nuit. Avant Marthe, il n'y a pas eu de nu dans le pinceau de Pierre. Il y a des femmes, beaucoup de femmes, en robe, en peignoir, en corsage, en chapeau, en cheveux, collets montés ou, c'est plus rare, démontés, comme la rieuse, coquine, mousseuse blonde de l'affiche pour France Champagne. Mais jamais, encore le moindre bout de cheville, de jambe, de sein à l'horizon. Jamais de nu. Pierre longtemps n'a peint que ses proches pendant les vacances au Grand Lan. Sa grand-mère, sa mère, sa sœur et ses cousines et les servantes. Myope, les couleurs l'atteignaient avant les figures. Aussi les peignait-il d'un peu loin, sur le massif des arbres et des prés, ou devant la maison, à table et sous la lampe qui fait rougir les ombres. Que l'adolescent farouche fut troublé par ses cousines quand elles se penchaient sur lui en riant pour juger du tableau, rien de plus naturel. Cette Berthe Schedlin, par exemple, qui se déhanche avec une grâce si voluptueuse sur les panneaux peints des femmes au jardin, on dit même qu'il l'a aimée, au point de la demander en mariage. Mais la famille Schedlin aurait exigé qu'il renonçât à ce métier qui n'en est pas un, pour une carrière honorable. La réponse de Pierre fut ferme et fière. Rien ne saurait à un peintre faire abandonner la peinture. S'il y eut des larmes alors, des reproches, des mains qui supplient, Pierre en tout cas ne revient pas sur sa décision. Et tous les pétales des marguerites dont il avait entouré le visage de Berthe fanèrent d'un seul coup. La peinture, elle, demeure, et toutes les fleurs sur le portrait de 1892, tendres et rapprochées comme un baiser d'adieu, ses mèches rousses et folâtres, ses taches de sang, ses lèvres roses mutines, ses yeux pleins de larmes qui coulent pour toujours à l'envers du tableau. Moins d'un an plus tard, Marthe ramassera le bouquet. Quant au modèle des Beaux-Arts et de l'Académie Julian, n'en parlons pas, juste assez de muscles et de chair pour habiller un squelette, filer quelques poses classiques, quelques contorsions, le temps d'affermir la main, et Pierre aura toujours les plus grandes peines à dessiner un pied nu. Heureusement, il y a la rue, et toutes les femmes qui marchent dans Paris sont chaussées. Vivent les Trottin, Cousette, blanchisseuses, marchandes de quatre saisons. Vivent les bourgeoises à chapeaux et voilettes, et vivent les catins qui toussent. On se mettra tout nu demain, quand on sera beau, quand l'amour sera. Voici Marthe, et c'est demain. Fini les fleurs artificielles qu'on enfile sur une tige de fer. Maintenant que Pierre en tire de sa manche de plus vrai que nature et les jette à ses genoux, maintenant qu'en deux coups de crayon il lui tresse des couronnes et fait naître sous sa peau des lilas frissonnants et des coquelicots qui la colorent jusqu'au bout des pieds. Pourvu que Pierre la regarde encore et encore et la fasse fleurir nuit après nuit, Marthe consent à être nue devant lui, éprise, surprise, dessinée, nue sur le lit, juste après l'amour, voluptueuse encore, indolente, une main caressant le sein où le plaisir longuement s'étire. Nue à demi, enfilant ses bas et tournant la rouge jarretière, la jambe prête aux pires écarts. Nue au bas noir, sous la lampe, et plus que nue, la tête prise dans l'écume des chemises et livrée aux rougeurs. Nue à la baignade, nymphe penchée sur le miroir d'eau, nue au tube, se lavant, accroupie, à genoux, cassée, nue dans son bain, longue sous l'eau verte, rêveuse, nue debout à sa toilette en escarpin à talons hauts, ou courbée, s'essuyant une jambe, se coupant les ongles des pieds, nue et cambrée, brûlant tout l'or du jour dans ses courbes. Sanguine à l'anguille nue, et roulant sur ses reins comme des cigarettes, les sulfureuses rêveries du poète de Parallèlement. Chloé nue pour son Daphnis dans les pages de Longus, nue rose ou bleue, ou verte, ou jaune, et la lumière n'en revient pas, nue au lavabo, au miroir à contre-jour, nue aux gants de crin, au couvre-pied, à la toque, au basset, nue au crayon, au fusain, à la gouache, nue à l'eau et à l'huile, nue en bronze, nue à toute heure et jusqu'au dernier jour, nue toujours jeune et gracile, comme si le temps s'était arrêté pour elle, pour lui, le jour où dans sa chambre pauvre, il la vit pour la première fois sortir du paravent, nue par bonheur, par bonheur nue, Marthe nue 146 fois peinte, Marthe 717 fois croquée nue dans les carnets, dessinée dans l'air, perdue dans les arbres, caressée dans l'eau. Marthe 32 ans nue, la tête baissée ou les yeux clos, gardant son secret, dérobant Marie.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Puis le ciel rouvre ses paupières et le printemps saute par la fenêtre avec la mer dans les bras. Marthe s'est rhabillée de rouge et Pierre la regarde avec des yeux tout neufs, comme cueillis du matin dans un nid d'herbes blanches. Ils viennent de visiter au Canet cette villa qu'ils avaient remarquée il y a quelque temps au cours d'une de leurs promenades dans les collines qui dominent le port de Cannes. Perchée à flanc de coteau au milieu d'un jardin en terrasse, elle ressemble à la maison de Vernonnet, mais au lieu de la Seine, la vue descend vers la Méditerranée qui joue là-bas entre les pins parasols, les acacias, les orangers, comme un lac où les monts de l'Estérel viendraient mouiller. En février 1926, Pierre en fait l'acquisition par devant notaire et tout de suite le fait aménager selon ses plans. Au rez-de-chaussée, une vaste salle à manger ouvrant sur le jardin par une porte-fenêtre. À l'étage, trois chambres, orientées plein sud celle de Marthe, peinte en jaune de Naples comme le petit salon et la salle à manger. À l'est et bleu, celle de Pierre et la chambre d'amis, avec des placards blancs. Au nord, l'atelier à deux niveaux qui donne sur les mimosas. Au sud-est, la salle de bain au mur de faïence gris-bleu. Au bas de l'escalier de Pierre qui rejoint l'avenue Victoria, un garage est creusé pour la Lorraine Dietrich qu'une Citroën traction avant finira par remplacer. Un crépi rose pour l'extérieur, un balcon au sud, l'électricité, le chauffage central, l'eau courante, un an de travaux. Le 27 février, ils emménagent. Ici aussi, le mobilier est réduit à sa plus simple expression. Quelques fauteuils dépareillés, tables et chaises de rotin, une ou deux vieilles armoires, mais surtout des nappes rouges, des vases de Valoris et des corbeilles à fruits qui peupleront les toiles de Pierre et réjouiront les yeux et le cœur de Marthe. C'est aux environs de 1910 que Pierre s'était épris du midi et de son éclat. Quelle lumière ! Un coup des mille et une nuits. La mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières. Saint-Tropez, Grasse, Antibes, Cannes, où ils viendront chaque année passer l'été, les conduisent au Canet. Pierre aime le port et son animation, les bateaux de pêche et le ciel sur la mer. Marthe préfère les fleurs, les fruits, l'amandier et le mistral qui joue dans les palmes. Le grand air enfin qui la fait revivre et la solitude à deux. On baptise la nouvelle demeure le Bosquet. On invite quelques amis, Matisse qui vit tout près à Nice et Monsieur et Madame Anloser. Pierre va y peindre tout son sou, renouveler sa palette et son émerveillement, remettre en question son art à la lumière de ce midi qu'on croit figé dans le soleil alors qu'il bouge sans arrêt. D'où les notations météorologiques quotidiennes dans ses agendas. Elles lui rendent au moment de peindre, à la lumière souvent artificielle, la mémoire des très subtiles variations que le temps impose aux couleurs. Ainsi, par beau temps mais frais, il y a du vermillon dans les ombres orangées et du violet dans les gris. Plus de 250 toiles, huiles ou gouaches naîtront au Canet entre 1927 et 1947. Des paysages ensoleillés ou orageux, le jardin sous tous ses angles, et c'est toujours l'Éden, des intérieurs, et c'est chacune des pièces du Bosquet que Pierre nous fait visiter, sauf une, la chambre de Marthe. L'année précédente, en 1925, le 13 août exactement, Pierre épouse Maria Boursin. Après 32 ans de vie commune avec Marthe, et parce qu'il l'a trouvée en pleurs en rentrant de voyage, Pierre épouse Maria Marie. Quelques jours plus tôt, au cours d'une conversation entre amis, l'une d'elles, parlant d'une femme qu'elle n'aimait pas, l'avait lâchée, mais elle est de celle qu'on n'épouse pas. La phrase avait fait mouche. Marthe a revu les années passées aux côtés de l'homme qu'elle aime. Elle s'est sentie tout à coup vieille, inutile, abandonnée, jalouse à en mourir. Pierre, que l'idée du mariage n'a peut-être jamais effleuré, comprend devant cette détresse que ce que Marthe attend de lui ne peut plus attendre. Après l'aventure avec René, le doute a poussé en elle comme un chien d'ant, renforcé une neurasthénie latente. Il n'est plus permis à Pierre de se dérober. Que Marthe soit sa muse, son inspiratrice, le patron visible ou dissimulé de ses tableaux, très bien. mais elle a besoin d'un engagement plus profond. Le lendemain, Pierre s'occupe des formalités et découvre le pot aux roses. Marthe de Méligny n'existe pas, c'est un nom d'aristocrate, un nom de courtisane, et ce n'est pas son nom. Marthe s'appelle en vérité Maria Boursin. Elle n'est pas née en Italie, mais en France, dans le Berry. Son père n'était ni comte, ni baron, ni ruiné, mais un ouvrier modeste qui avait 3 vaches peut-être et quelques cochons pour joindre les 2 bouts. Que Pierre soit tombé de haut, qu'il ait pâli sous le choc et se soit soudain senti mal, ou qu'il ait pris cette imposture pour une coquetterie de femme pauvre qui veut se grandir, qu'il en ait souri en hochant la tête, nul n'en saura jamais rien. Toujours est-il que le mariage sera célébré en secret, quelques jours plus tard, devant le maire du 18e, avec pour seul témoin leur concierge et son mari. Quant à la famille Bonnard, elle n'en sera informée que 23 ans plus tard, lors du triste procès qui suivra la mort de Pierre. Une fenêtre s'ouvre, une autre se ferme. Marie s'efface sous la voilette où Marthe rit. Marie n'est plus. Madame Bonnard a pris toute la place, elle est au nu. Les lèvres de Pierre auront beau dire « Marthe » jusqu'au bout, elles n'empêcheront pas une petite ombre de se glisser dans ses rêves et dans l'atelier, de relever la tête des nues et de les faire sourire, Marie. Il y a une fenêtre dans l'œuvre de Bonnard qui se distingue de toutes les autres, de celle qu'il a peinte et qu'il peindra encore. Une fenêtre qui laisse entendre que le mensonge de Marthe l'a touché profondément. Ce tableau date de l'année de leur mariage. À première vue, rien que de banal. Une fenêtre fermée, de biais dans son cadre de bois brun et qui coupe la toile en diagonale. D'un côté l'extérieur, le paysage du Canet, façade blanche et toit rouge parmi les arbres, sous un ciel qui menace l'Estérel. Penchée à son balcon de bois vert pomme, la tête de moitié et les avant-bras nus, Marthe. De l'autre côté, l'intérieur, une table poussée contre la fenêtre, avec sur la toile cirée à carreaux le nécessaire pour écrire, la bouteille d'encre noire, le porte-plume, un feuillet vierge. Et sur un épais dossier à couverture de cuir, un livre rose dont le titre en capitale bien lisible se détache, Marie. Le nom de l'auteur est effacé, il importe peu. Sans doute est-ce Peter Nansen, cet écrivain danois dont Pierre, en 1897, avait illustré le roman Marie en prenant Marthe pour modèle. Ce qu'il est davantage, c'est la position du livre par rapport à celle de Marthe dans le champ du tableau. Le montant de la fenêtre les sépare et les oppose. Au dehors, dans la familiarité, Marthe. Au-dedans, dans l'intimité, Marie. Marthe pour tous, Marie pour lui seul, Marthe révélée, Marie refermée. Il n'y a pas de fenêtre innocente. C'était « Elle, par bonheur et toujours nue » de Guy Goffet, édité dorénavant en folio, Gallimard. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « Valse romantique » de Claude Debussy, interprété par Alain Planès. Cette émission était produite par Frédéric Guillon. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h02 sur Bretagne 5 dans Voix au chapitre pour un autre texte. Et je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.